la musique.
Caravanana maximum. Sa gueule, sa gueule.
Je me fous du
sale, 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 sale.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le soleil.
Vive les oreilles.
Vive.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, émission consacrée aux musiques singulières et autres formes d'expression curieuses. Alors Laurent, notre ami Laurent Pascal va nous présenter nos invités du jour. Salut Laurent.
Salut, donc j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Marco Carésimine et Geoffroy Gesser dans les oreilles libres. Marco Carésimine qui faisait la contrebasse dans le morceau qu'on vient d'entendre avec Geoffroy Gesser au saxophone. Et puis un troisième larron qui est Guillaume Béguineau à la batterie. C'est un trio qui s'appelle Cinch. Et peut-être avant d'en parler, vous pouvez vous présenter un petit peu. On a l'habitude de toujours demander aux invités un peu de retracer en quelques mots leur parcours. Comment est-ce que vous avez appris, qu'est-ce qui vous a fait arriver à jouer une musique un peu comme celle-là, par quel chemin on arrive à une pratique aussi assez expérimentale, etc. Sans forcément rentrer dans les détails, mais quelques grandes lignes. Marco, tu veux commencer?
Bonjour.
Bonjour.
Moi, j'ai commencé 14 ans, du coup, plutôt tard la musique, avec la basse électrique. J'aimais beaucoup le rock, les groupes de rock du moment, comme Radiohead. Mm-hmm. En fait, j'ai commencé parce que j'aimais beaucoup la basse d'un morceau de Radiohead qui s'appelle Airbag. Et après, mon prof m'a dit, mais en fait, il y a le jazz, tu devrais écouter ça. Et du coup, j'écoutais Charles Mingus, et je suis tombé amoureux de Charles Mingus. Et depuis, j'ai commencé à écouter le jazz, et j'ai pris la contrebasse. D'accord. Et à un moment, voilà, j'ai eu envie d'autres choses, d'un certain point de vue, on peut dire, de me libérer un peu. Et je suis passé à des choses de la musique plus libre.
Et qu'est-ce qui était contraignant alors?
C'était le fait que il y a des règles, il y avait des règles. Chaque instrument dans le jazz dit traditionnel a des règles. Ça, c'est pas grave, c'est bien, c'est une tradition, il faut la respecter en même temps. Mais moi, j'avais envie aussi d'autres choses.
D'accord.
Voilà, la basse qui accompagne avec le walking, après la batterie, pareil, rythmique et tout ça. Et j'avais envie d'écouter une musique où chaque instrument avait le même rôle, la même importance.
C'est vrai que c'est assez net dans ce qu'on vient d'entendre. Il n'y a pas le soliste, il n'y a pas la rythmique, c'est vraiment une masse. Une masse sonore, c'est un exemple un peu ce qu'on a entendu de ce que tu es en train de dire là, quoi. Il n'y a plus cette hiérarchie ou quoi.
Ouais, si tu veux, voilà, la basse, il ne fait pas la basse, il n'y a pas un rythme régulier, tout ça. Et moi, j'aime beaucoup dans ce travail-là, par exemple, avec Cinch, l'idée que les groupes sonnent comme une masse, une forme. Et on peut pas, parfois, même pas distinguer les instruments l'un de l'autre. Voilà, c'est ça que j'aime bien.
D'accord. Et du coup, c'est simplement de plus supporter les règles du jazz normal, on va dire, qui fait que tu as eu envie d'aller ailleurs.
Non, forcément, c'est aussi des rencontres. J'ai beaucoup travaillé avec un percussionniste italien qui s'appelle Roberto Dani. Qui avait
donc, pour préciser aussi que tu viens d'Italie, quoi.
Oui, ça fait 5 ans que je suis en France. Ouais. Et avec Roberto, qui avait joué avec Likonitz et tout ça, du coup, un batteur de jazz. Mm-hmm. Et avec lui, on a expérimenté des partitions graphiques, des règles inventées pendant des laboratoires de musique improvisée qui ont duré 3 ans. Et voilà, c'est la rencontre avec lui et plein d'autres musiciens, même de la même génération, qui m'ont donné envie d'écouter, d'expérimenter, de jouer d'autres choses.
Bon, bah super. Écoute, on y reviendra tout au long de cette émission, puisqu'on va décliner tout un tas de projets des uns et des autres. On va écouter ensemble des musiques que vous faites chacun. Mais peut-être, Geoffroy, tu peux te présenter à ton tour. Comment tu arrives à jouer cette musique-là? D'où ça vient? Quel est ton parcours, ton apprentissage? Est-ce qu'il y a eu des rencontres aussi importantes? Comment ça s'est passé pour toi?
Ouais, si on remonte plus loin, moi, je... Au départ, je viens du Doubs, donc de Franche-Comté. Ouais. Et donc j'ai commencé dans une petite harmonie, une petite école de musique, etc. Très jeune. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui étaient déjà ouverts à l'improvisation, plutôt au jazz du coup. Et voilà, enfin, après, donc, j'ai fait des conservatoires en classique, etc. Mais mes professeurs de saxophone étaient vachement ouverts, quoi, sur l'improvisation.
D'accord.
Et donc, voilà, j'ai improvisé librement, enfin, sans contrainte d'harmonie, finalement, assez tôt. Pardon. J'ai un souvenir quand j'avais, je sais pas, 12 ans, je me souviens avoir improvisé seul dans ma chambre hyper longtemps et enfin j'ai découvert une liberté super grande et puis voilà jouer avec des copains tout ça faire des petits groupes etc et puis faire n'importe quoi enfin c'était vraiment
donc toi c'est assez différent du coup il n'y a pas eu cette idée de se libérer de contraintes parce que c'était plutôt hyper spontané hyper naturel en fait on a l'impression que t'as un peu toujours fait ça d'autant que tu joues quoi c'est sans trop chercher à se poser des questions ou à faire comme ça vient et comme du coup il n'y a pas eu d'échappatoire du tout c'était juste une pratique évidente mais bon au bout d'un moment tu l'as conscientisé quand même parce que tu disais que tu étais au conservatoire etc. Donc tu as eu aussi
après,
quelque chose de plus académique comme apprentissage
j'ai poussé un peu le truc Conservatoire de Lyon, bon, c'était du jazz assez traditionnel qu'on nous enseignait, mais toujours avec cette part d'improvisation que je faisais à l'extérieur avec des groupes de composition, etc. Mm-hmm. Et puis après, voilà, le CNSM de Paris, où la classe de jazz est quand même assez ouverte à l'improvisation.
Ouais.
Et la classe d'improvisation générative aussi.
Ouais. Donc c'était Alain Savouré à l'époque
C'était Vincent Legang et Alexandros Marqueas.
Okay.
Et ouais, ça m'a poussé un peu plus aussi vers la musique improvisée. Mais il n'y a pas que ça, bien entendu. Il y a aussi le fait d'être à Paris et de côtoyer les musiciens du collectif Coax. Collectif Umlaut.
Des collectifs qu'on a reçus déjà à cette antenne plusieurs fois. Et donc effectivement, après, ça se fertilise avec les échanges avec les autres musiciens. Ouais. Et du coup, revenons peut-être à Sinch et à cette musique-là, parce que j'ai le grand plaisir d'avoir la partition devant les yeux du morceau qu'on vient de...
On n'a pas précisé que c'était le premier morceau qu'on a écouté.
Je croyais l'avoir dit, excuse-moi. Mais maintenant c'est clair, en tout cas.
Nos deux invités participent au groupe, voilà.
Voilà, mais je crois qu'on l'a dit. peut-être j'ai mal dit, mais... Et du coup, là, des contraintes, il y en a, par exemple, Marco.
C'est vrai
composé,
que c'est un peu contradictoire, le fait de proposer aux autres, aux musiciens, de jouer librement, mais en même temps, de leur donner des contraintes.
Ouais.
Mais je pense que ça, c'est dû au fait d'une recherche, peut-être, qui vient après une question de un questionnement voilà où est-ce qu'on peut trouver l'unité des sons je sais pas comment on peut le dire la ligne droite la clarté même pour qui joue aussi en même temps pour qui joue en même temps pour qui écoute parce que voilà improviser librement c'est assez chouette et parfois c'est aussi intéressant de chercher des langages qui peuvent être aussi représentés par de l'écriture. Finalement, c'est des formes ouvertes, qu'on appelle comme ça. On n'est pas là à la minute près.
Oui, c'est ça. C'est pas écrit.
C'est juste des dessins qui peuvent.
On va peut-être y revenir du coup à ces dessins. Ouais. Ça me passionne ces questions, mais je veux dire juste que j'ai été assez sensible. Je pense que c'est même vraiment réussi de cette clarté dont tu parlais. On entend l'unité du morceau. Il y a vraiment un endroit esthétique qui est très cadré, qui est très clair. En revanche. Si tu m'avais demandé d'écrire la partition, même avec tous les outils graphiques possibles et inimaginables, je suis pas sûr que j'aurais abouti au dessin que j'ai devant les yeux. Alors peut-être qu'on peut les décrire. Il y a trois trois grands rectangles avec verticalement la couleur, enfin l'intensité de très sombre à très clair et horizontalement la densité peut-être de son d'un côté
durée,
les clics et de l'autre le drone. C'est ça les paramètres de cette musique.
Oui, c'est juste les deux. Le reste c'est libre, tenant compte que voilà, on a un travail quand même qui est dur. Depuis longtemps ensemble avec ces trios et on a fait d'autres choses avant, c'était l'impro libre, accès un peu rock, tout ça. Et après on a un peu, comment dire, cherché, dépouillé, jusqu'à ce qu'on est arrivé à un son comme ça. Et du coup, on avait envie de l'écrire d'une façon assez ouverte.
Je trouve ça super intéressant. Et pourquoi trois rectangles?
C'est juste, il y a trois mouvements.
Trois parties de morceaux.
C'est des changements rapides, des switches. C'est pour ça aussi le nom Synch, c'est voilà, la synchronisation, des changements rapides.
Qu'est-ce que ça veut dire très clair et très sombre?
Mais en fait, c'est des paramètres. Je sais pas si tu veux parler.
Oui, je vois.
moi, c'est Marco qui a composé le.
Ah oui, mais toi, tu la joues quand même. Tu lui as peut-être posé la question de ce qu'il voulait dire par là ou non? C'est une communication instrumentale, je veux dire.
Non, on a beaucoup cherché la signification de.
Et alors, tu peux nous faire part
son,
un tout petit peu juste
du son clair. Et il y en a d'autres parce qu'en fait c'est une suite de plusieurs pièces.
Mais là tu veux pas nous
sur
expliquer
le même concept.
D'accord, pardon.
Du coup il y a à chaque fois trois parties.
Ouais.
Et donc il y a différents paramètres, mais peut-être tu peux décrire.
L'idée en général, sans aller dans les détails, c'est que j'avais envie d'écrire des partitions graphiques pour nous aider dans la recherche sonore, avec des paramètres qui ne sont pas les paramètres habituels, comme la hauteur
et la durée. Quoi.
La durée. Et du coup, je voulais chercher des termes, des mots qui on peut prendre dans les processus créatifs qu'on a fait jusqu'à là. Okay. À part semble clair, c'est toujours en débat, mais les autres, par exemple les clics, les drones, voilà, c'est des choses qu'on a travaillé. Après, il y a des choses.
C'est-à-dire que ça peut avoir un sens pour vous aussi dans le faire de la musique, si vous avez. Dans la pratique, vous avez décidé que ce que vous jouiez à un tel moment, ça s'appelait clair, et à un tel autre, ça s'appelait sombre. Vous comprenez entre vous. C'est pas. De toute façon, les partitions ne sont pas destinées à être publiées non plus ou quoi que ce soit. Enfin, j'imagine. Pourquoi pas.
Mais il y a un truc très personnel pour chaque musicien dans l'interprétation de clair ou sombre, par exemple, ou de lourd ou léger.
Oui, c'est
il y en a d'autres où c'est écrit ça.
C'est intéressant.
Et en fait, c'est un peu. C'est une sorte de. Réflexion comme ça avant de jouer. Alors, quels sons je peux faire
Et puis c'est aussi
sombre et long, par exemple. Je sais pas où. Il y a des boucles aussi des fois.
D'accord.
Des petites boucles ou des grandes boucles. Enfin voilà, c'est.
Et c'est aussi le moyen, je crois, de. On écoutait un autre morceau juste après, mais d'arriver à faire des morceaux qui ne soient pas tous pareils. Je me souviens de questions qu'on posait à des précédents invités. C'est vrai que quand on improvise spontanément sans se donner de consignes, ça peut arriver que finalement, il se passe toujours la même chose. On a l'impression de tourner un petit peu en rond, d'écouter toujours la même musique. Que là, simplement, il y a ces indications-là, même si elles ont un sens subjectif uniquement pour celui qui la joue, ça permet aussi d'avoir une musique, là, les trois parties qui vont être relativement différentes. Et du coup, si je comprends bien, il y a des petites. Trois là, c'est pour chaque instrument. Ils auront chacun leur dose de clarté, de sombritude, et l'autre de continuité et de discontinuité.
Ils sont placés dans le spectre sonore.
Et après, ils se débrouillent pour mettre ça en œuvre, et chacun a son dosage, et ça. Bon, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'on en réécoute un autre extrait?
On peut en réécouter un autre, mais cette fois-ci, c'est pas le même. Malheureusement, c'est pas un de ces schémas.
Tant mieux, on va découvrir autre chose.
Voilà. Alors, c'est un autre. C'est une improvisation, on peut dire, un peu guidée. Mm-hmm. Sur l'idée de faire des petits sons, enfin des sons courts, préparés. Si possible, donc pas forcément des notes, etc. Et d'en avoir 4 ou 5 et de jouer avec, de passer de l'un à l'autre très vite et de réagir. Et voilà, tous les trois, on a choisi 4-5 sons et on a improvisé avec ça.
C'est bien de donner la recette avant, parce que comme ça les auditeurs peuvent imaginer qu'est-ce qu'ils feraient s'ils avaient à faire le morceau, et puis vont entendre ce que ça donne quand c'est Sinch qui le joue. Alors on écoute. Geoffroy Jesser, Marco Quaresimin et Guillaume Béguineau, c'est le trio Sinch qu'on écoutait à l'instant dans les oreilles libres. Donc Geoffroy Jesser et Marco Quaresimin sont nos invités. Peut-être on peut dire encore quelques mots sur ce trio dans lequel vous jouez tous les deux. Comment on arrive du coup maintenant à jouer cette musique-là, qui est effectivement assez différente de celle qu'on a entendue juste avant.
Voilà, c'est un truc qu'on a enregistré cet été en fait, qu'on est en train de mixer.
D'accord.
Donc voilà. Et en fait.
Un inédit, merci pour ce cadeau.
Un peu brut, mais. Et en fait, au départ, donc. Ça fait 2-3 ans que ça existe, hein, ce groupe.
Ouais.
Au départ, on improvisait librement, voilà, comme tu disais. Donc sans contrainte. Et puis, en mixant notre premier album. On a commencé à prendre des extraits de ce qu'on avait enregistré, à les mettre en boucle, mais des petits fragments de une seconde ou deux.
Ah ouais.
Donc voilà, on les a mis en boucle, on les a enregistrés, et ensuite on a imité ça en répétition. Voilà, on a travaillé là-dessus, donc de passer d'une boucle à l'autre, etc., d'être synchronisé là-dessus.
Okay.
Et en fait, il y a une période où on avait donc ce mode de jeu-là, les boucles. On avait le pointillisme, donc les petits sons, ça peut ressembler à ce qu'on a entendu là, mais un peu moins fourni, disons, un peu plus éclaté.
Ouais.
Et puis l'aspect free jazz, comme tu disais, Marco, voilà, grosse énergie, gros son, un peu Albert Ayler, etc. Mmh. Et donc voilà, on essayait de faire des concerts en alternant tout ça, sans se dire par quoi on allait commencer.
Ouais, ouais.
Et on pouvait zapper d'un truc à l'autre, et si on essayait d'être ensemble, quoi.
Ouais, ouais.
Et puis voilà, donc c'était, on a retravaillé et puis enregistré. Et donc là, dans ce qu'on a entendu, ben il y a ce, comme je disais, ce côté un petit peu pointillisme, sans préparer, et aussi le côté boucle. Enfin, il y a des moments où il y a des boucles. Enfin, un peu le...
des choses répétitives. Qui...
on peut l'entendre. Si c'est pas toujours évident. Mais voilà. Enfin, il y avait des règles.
Ouais.
Et au final, on les a pas mal transgressés, puisqu'il y a plus de 4 sons ou 5 sons chacun.
Ah, mais en même temps, vous les avez aussi quelque part incorporés ou intériorisés, parce que vous n'avez même plus besoin d'y penser, à force d'y jouer.
C'est... Voilà, puis bon, on est là pour faire de la musique aussi, ouais. Et pour jouer ce qu'on entend sur
ce que vous ressentez. Ouais, voilà. Moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans ce que tu dis, c'est que le fait de vraiment d'avoir enregistré ce premier disque, ça vous a... c'est souvent le cas en fait, parce qu'on s'écoute, on a du coup une oreille extérieure, mais là ça a vraiment changé complètement la musique, parce que vous avez pu utiliser cet outil là pour développer presque une nouvelle pensée musicale, avec cette histoire de fragments qui est directement liée à la technique de l'enregistrement, mais que vous n'auriez sans doute pas eu l'idée de faire si vous n'avez pas été passé par les studios. Et là le deuxième donc est en cours de... Voilà, et là, ça s'affine, alors, du coup, le processus de,
voilà,
ouais. De création. Est-ce que, un peu, quand est-ce que ça va sortir, ou est-ce qu'il y a des échéances?
Il n'y a pas vraiment d'échéance, dans pas longtemps.
Bon, alors, on tiendra au courant les auditeurs de l'avancée de ce projet. On va peut-être continuer à échanger avec vos différentes formations, parce que chacun de votre côté, vous avez aussi beaucoup d'activités. Voilà. Peut-être, Geoffroy, on commence avec toi. On peut parler du duo Brim, que alors moi j'avais rencontré il y a des années, donc avec le pianiste Romain Claire Renaud, aussi un duo du coup qui a fait esthétiquement un long chemin. Peut-être tu peux retracer un peu, parce que moi je crois que la première fois c'était genre un concert au Sunset où il y a vachement longtemps, et puis après j'ai revu, enfin suivi d'assez près quand même le duo, que j'aime beaucoup.
Merci.
voilà, tu peux peut-être retracer comme ça un peu le...
Oui, ben, on s'est rencontrés au conservatoire, donc à Paris, avec Romain. Et puis, oui, on a commencé donc en duo comme ça, à jouer des compositions de Romain, qui étaient plutôt des ballades. Ça ressemblait un peu à Benoît Delbecq. Enfin, il y avait un côté comme ça, très épuré. Avec un peu de piano préparé, et puis en fait il joue du piano et du Nord,
un
clavier, où il met un son de piano et du coup il fait des échos comme ça, enfin c'est un truc très... Il met de la réverb sur son clavier.
Entre les sons de piano réels et puis les sons de piano virtuels qui...
Et là, ouais, ce que tu avais vu là au Sunset, c'était avec le conservatoire qu'on avait fait ça. Et voilà, on avait joué quelques morceaux comme ça, c'était vraiment le début. Et puis voilà. Et puis
donc après, passé beaucoup de choses depuis. Ouais.
Voilà, on a beaucoup travaillé parce qu'on pouvait, parce qu'on était étudiants aussi. Et donc ensuite, on est rentré dans le collectif Coax et on a enregistré notre premier album.
Et là, la musique était déjà assez différente.
Ouais.
Qu'est-ce qui avait changé?
Ben, on a rajouté d'autres choses en fait. D'autres choses. Bon, en fait, ça s'appelle Brib. Enfin, ça s'appelait pas forcément Brib au début.
Non, oui, d'accord.
C'est à peu près à partir de là que ça s'est appelé Brib. Parce que voilà, on mélange plein de choses. Et là, le disque qu'on a sorti, c'est plutôt des miniatures de 2-3 minutes. Enfin, si on peut appeler ça des miniatures.
Parce que les bribes, du coup, c'était aussi l'idée que d'un espèce d'inachèvement, peut-être, ou de...
Voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ouais, c'est ça. C'est en concert, enfin maintenant, on enchaîne ces bribes et on improvise aussi. Donc c'est... Et voilà, des fois, il y a un ordre établi, des fois non. Enfin voilà, c'est... On essaie d'être libre là-dedans, dans la forme. Et voilà, il y a des passages écrits. Donc tu me demandais ce que c'était les autres. Donc par exemple, je sais pas, il y a un thème très lyrique, très free jazz, un peu à la Albert Ayler.
Ouais.
Ou alors il y a un truc bruitiste avec seulement 3 sons.
D'accord.
Ce qui ressemble un petit peu à ce qu'on vient d'écouter avec Cinch, mais pas tout à fait pareil.
Ouais.
Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une chanson un peu pop.
Ah oui, donc c'est vraiment des références assez précises quand même, stylistiquement, on va dire.
Voilà.
Et du coup, ça peut conduire à un patchwork dans lequel vous.
Voilà, c'est ça.
Que vous brodez.
Ou alors de quelque chose de très noise.
Ah oui. Baroque, en fait, si tout se retrouve en même temps.
Voilà, ouais.
Et ben, peut-être on en écoute un extrait et puis on en parle encore après. Bribes. Brib, donc le duo Geoffroy Gesser, notre invité, avec Romain Claire Renaud au piano. Et puis, voilà, c'est impressionnant comment on passe aussi d'un endroit à l'autre, d'une musique à l'autre. C'est un grand écart et en même temps, ça se tient. Enfin, je veux dire, les deux jambes sont l'une à côté de l'autre. Tu voulais rajouter quelques mots encore sur Brib? On parlera peut-être tout à l'heure de Brib 4, c'est-à-dire l'histoire continue, mais peut-être on laisse le suspense. et je me tourne du coup vers Marco. Donc on peut peut-être aussi parler de toi, de tes projets en cours. Peut-être quelques mots sur un trio.
Je participe à un projet...
Trip,
qui s'appelle Trip,
voilà,
comme les Trip ici,
qu'on a dans le bide.
Dans le bide. Et avec Jean-Brice Godet au clarinette et Julien Chamla à la batterie. C'est encore un disque Coax qui est sorti en mars dernier.
Le label Coax.
Et qui a été enregistré en juillet de l'année précédente. 14. Et c'est un groupe avec lequel je joue depuis 4 ans. Et la musique qu'on va entendre après, c'est le fruit d'une espèce de frustration qu'on avait au début de jouer la soi-disant musique improvisée. C'est-à-dire, j'essaie d'être clair, des compositions dans lesquelles on trouve des espaces de liberté pour improviser. Du coup, quand c'est moi qui appelais les musiciens, j'avais écrit les répertoires, c'était ça, voilà, il y a des thèmes et après des moments pour improviser. Et à un moment, on s'est dit, bon, ouais, c'est cool, les thèmes sont beaux et tout, mais il manque quelque chose. Et du coup, au fur et à mesure, on a travaillé, on a fait des résidences, et on a trouvé quelque chose dans une des compositions. Voilà, on a dit pourquoi pas, au lieu d'improviser, on n'improvise pas. Et du coup, on joue quel truc écrit, mais longtemps. Ah. Et du coup, ça crée une espèce de circuit dans notre tête et dans la tête des gens qui étaient présents. Parce qu'à la fin de la résidence à PAF des Saint-Termes, à côté de Reims, on a présenté la musique aux autres artistes qui étaient en résidence. Et on s'est dit, bon, tiens, là, on a trouvé quelque chose. Mm-hmm. Et depuis, on a creusé et ça se trouve que j'avais déjà écrit un morceau pour Trip sans le savoir. Il y avait un an. Pour un autre ensemble de voix. Et ça marchait beaucoup, ça marchait bien. Ouais. Et du coup, voilà, on s'est dit, bon, ça peut être intéressant à faire. Et du coup, c'est là que Jean-Brice s'est dit, mais les gars, là, on est en train de faire du Suicide Jazz. on a appelé comme ça les disques.
Mais pourquoi pourquoi que l'idée de répéter comme ça, de façon très insistante, une même musique, à quoi ça mène au suicide?
Je sais pas, c'est quelque chose que, en premier moment, ça nous a fait beaucoup rigoler. Mais après, il y a quelque chose dans la couleur, peut-être, et dans le fait qu'on est des improvisateurs. Et finalement, c'est dans la contrainte de ne pas improviser.
C'est plutôt la mort du jazz, en fait.
Après, il y a des journalistes qui ont écrit. C'est clair. Il n'y a pas de solo. Du coup, on a les solos dans le jazz. On laisse au libre aussi l'interprétation.
Bien sûr. on va peut-être entendre un échantillon. Et puis, on poursuit la discussion juste après. Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres avec nos deux invités aujourd'hui, Marco Carizimine et Geoffroy Gesser. L'émission est animée par Laurent Pascal. Et moi, j'ai une question. On vient d'écouter un extrait du groupe Trip, un morceau assez long qui dure 19 minutes et on a coupé à moitié du morceau à peu près. Or, pour le groupe précédent, Bribe, j'ai remarqué, ce qui est rare dans la musique improvisée, que tes morceaux étaient assez courts. J'en ai pas vu un de plus de 4 minutes 30 et il me semble dans d'autres de vos propositions qu'on va écouter plus tard, c'est également le cas de ces durées assez courtes. Et j'aimerais savoir ce qu'il en est. Est-ce que c'est un choix délibéré de pas, parce que après tout la musique improvisée, ça peut durer des heures.
Bah là ouais, le concept de l'album là de Bribe, c'est de faire voilà des petites miniatures de 3 minutes enchaînées comme ça et d'aller un peu partout dans ce qu'on sait faire, dans ce qu'on après en concert on enchaîne tout et on fait des longs. Enfin, du coup, ça fait une longue, un long set, quoi. Mmh. Avec des fois des arrêts, mais c'est pas prévu les arrêts, donc. Mmh. Voilà. En fait, c'est une sorte de.
C'est le projet qui détermine ça, en fait. C'est pas une ouais. Montée esthétique, par exemple. Ou...
Ouais. D'accord. Et puis là, on écoutera Bribe 4 après. C'est on est en train de mixer l'album, mais on a enregistré aussi des choses assez courtes comme ça. Voilà.
C'est vraiment effectivement très intéressant parce que du coup les deux l'un après l'autre, j'ai l'impression qu'il y a presque deux démarches opposées quoi. C'est-à-dire l'un avec des tout petits bouts mais qui sont tous très différents et qui s'enchaînent du coup, qui peuvent faire une mosaïque. Là je parle de Bribe quoi, où il y a des tas d'endroits effectivement, mais en même temps on saute de l'un à l'autre assez rapidement, on les met bien en évidence et puis après on par ailleurs, et alors que vous, c'est plutôt effectivement à un endroit sur lequel on s'étend considérablement. Et je pensais en écoutant le morceau, on peut trouver ça assez paradoxal. Tu nous disais que c'était le moment où vous étiez en train de basculer et le moment où vous avez enregistré cet album de la musique improvisée au Suicide Jazz. Et je me disais, mais comment ça se fait que des musiciens improvisés ont envie de se mettre autant de contraintes sur le dos par rapport à ce que tu nous disais aussi en début d'émission, quoi, parce que là on a l'impression que c'est hyper contraignant. Et en fait je me dis que ce qui se passe là dans cette musique de Trip, c'est qu'à force d'insister, de réitérer, etc., il se passe des choses finalement assez fines, assez subtiles, qu'on a besoin d'être improvisateur pour pouvoir en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut pas les écrire, on peut pas les prévoir, on peut pas les calculer, il faut vraiment les vivre, les ressentir et savoir négocier avec ces trucs très fins qui se passent et qui se développent en fait tout au long du morceau, bon, par le fait que c'est pas forcément synchrone, etc. Et du coup il y a des tas de facettes comme ça qui émergent, mais qui sont plus des reflets, des éclairages, des petites choses beaucoup plus difficilement saisissables et qu'on aura plus de mal à mettre en forme dans un processus de composition classique, alors que là l'improvisation finalement c'est aussi la capacité de jouer avec des choses presque pas imperceptibles, mais en tout cas difficiles à enfermer justement dans des concepts ou dans des idées ou des représentations musicales. C'est plus un fait musical qu'on va saisir, et du coup je pense qu'il faut être improvisateur pour jouer cette musique là sinon c'est trop compliqué, on n'arrive pas à la faire sonner.
Peut-être tu as raison, on se dit de temps en temps que voilà, l'improvisation d'un Trip ça se place ailleurs, mais ouais. Toujours présente.
Ouais. Bon après oui, c'est peut-être juste le travail d'un interprète en fait, mais quand même là il s'agit quand même de se saisir de ce qui se passe dans l'instant quoi, pour le faire vivre.
Et aussi il y a un rapport avec le corps, avec déjà entre nous et avec le public qui se met en place, et ça c'est pas facile à
négocier.
Ouais.
Ça c'est vraiment typique de travail d'improvisation.
Et vous improvisez des fois des boucles ou...
Ça nous arrivait de faire des concerts. On était une fois à République Tchèque et on a fait 3 sets. Le premier était improvisé. Et pardon, le premier, voilà, c'est le set qu'on vient d'écouter. Le deuxième, c'était des boucles improvisées. Et troisième, c'était totally free avec le public qui participait. C'était génial. Ouais. Ouais, à 3h du mat, on était allongés sur le sol, on chantait. C'était
Donc venez voir Trip ce soir au Pré Saint-Gervais.
Ouais, à la Petite Criée.
À la Petite Criée.
En rue.
Rue Jean-Baptiste Séménaz.
Voilà. Rue Jean-Baptiste.
À 20h30.
20h30, et c'est une participation aux frais ou c'est entrée
libre?
Non,
c'est entrée libre. Voilà. Il y a du vin qui est assez bon.
Bon, bah, alors voilà des, des sacrés arguments. On rebondit peut-être sur Bribe 4. Donc on a entendu le duo tout à l'heure que tu fais, Geoffroy, avec Romain Claire Renaud. Et puis il y a la suite de l'histoire où le duo se transforme en quartet. Enfin, le duo continue d'exister également, mais
on essaie. Ouais.
Là, ça s'est c'est tendu, on va dire aussi. Alors peut-être.
Voilà. Ouais. Maintenant, l'actualité, c'est plus ça. C'est plus Bribe 4.
Ouais.
Ouais, c'est une création en fait qui est née début 2015. En fait, on a invité Isabelle Sörling, chanteuse qui vient de Göteborg en Suède. Mm-hmm. Et Yann Joussin, batteur du collectif Coax. Et voilà, donc Yann fait aussi de l'électronique. Enfin, il a des triggers sur ses pots et il fait de l'ordinateur aussi, etc. Isabelle, elle a aussi des effets, des sampleurs. Etc. Et puis.
Il n'y a que toi qui n'en as pas.
Si, moi j'ai une pédale de reverb.
Ah ouais,
pas mal. Hein. Non, parce que c'est un groupe où il y a beaucoup de reverb.
Ouais.
On aime bien ça.
D'accord.
Surtout Romain, Claire Renaud.
Okay.
Là, il joue de deux claviers maintenant, plus le piano.
Ok.
Et il a aussi une pédale de reverb.
Ouais,
mais
il en faut.
Voilà. Ouais, du coup, moi, j'ai juste la possibilité des fois de faire un peu résonner mon son. Mais j'utilise pas tant que ça. J'utilise aussi le micro pour faire des bruits de clés, etc. Enfin, ou des Larsen. Mm-hmm. Voilà.
Et qu'est-ce que ça change d'être à 4 plutôt que faire beaucoup de choses, j'imagine. Mais concrètement, c'est quoi?
On joue des compositions qu'on jouait en duo, qu'on a adaptées au quartet.
D'accord. Donc toujours dans l'idée d'avoir des bribes comme ça.
Voilà. Ouais. Et puis après, on en a écrit de nouvelles.
D'accord.
Et puis on improvise aussi. En fait, là on est en train, on a fait quelques concerts, mais voilà, c'est le projet en train de mourir, quoi.
Ouais, ouais.
Donc là, les concerts qu'on a fait, des fois on improvise du début à la fin, ou alors on joue des compositions, des petites miniatures, ou alors voilà, on mélange les deux, mais de manière séparée, c'est-à-dire on commence, on improvise pendant 20 minutes. Et après, on enchaîne des compositions, par exemple.
D'accord.
Et en fait, voilà, je voulais vous faire entendre une de mes compositions, qui est en cours de mixage, parce qu'en fait, on a enregistré au mois de novembre à la Fraternelle de Saint-Claude.
Ah bah encore un deuxième cadeau, merci. <monsieur. rire>
Et du coup, là, voilà, on est en train de mixer. Donc, en fait, ce morceau... Il s'appelait Zapping au début, donc encore une fois cette idée comme dans Cinch, mais c'est pas tout à fait pareil.
Ah non, c'est pas pareil,
c'est ça qui est. Donc en fait j'avais enregistré des improvisations de Bribe 4 qu'on a fait en répétition, et ensuite j'ai réécouté tout ça, les rushs, et j'ai sélectionné des passages qui me plaisaient beaucoup, et ensuite je les ai montés. Pour qu'ils s'enchaînent bien l'un après l'autre. Et ensuite, j'ai fait une partition où j'ai relevé chaque partie de chaque instrumentiste. Et voilà, donc en fait, c'est un enchaînement de.
Uh-huh. Et quand vous le jouez, bien, ça ressemble vraiment.
Et même, pour travailler, on réécoutait le montage que j'avais fait, tout ça. Et puis on cherchait les sons. Ah, j'avais fait ça. Enfin, on ne se souvenait plus de comment on l'avait fait. Mais...
Okay.
Puis voilà, donc c'est une sorte d'enchaînement comme ça, avec des signaux qui nous font passer à une autre partie.
D'accord.
Ouais. Et il y a des phases d'improvisation aussi.
Ça aurait pu vous emmener complètement ailleurs, parce que Cinch, c'est aussi ce qui s'est passé. Ça a été un moment, et puis après, vous êtes allé à un autre endroit. Mmh. Là, du coup, vous avez vraiment l'idée d'être fidèle à.
Là, sur ce morceau.
Sur ce morceau.
Mais après, voilà, c'est pas. C'est pas le concept de ah, tout de, le répertoire. C'est un morceau qui est comme ça. Après, il y en a un autre. C'est autrement une pop song avec des paroles. Il y en a un autre, c'est une improvisation bruitiste. Enfin, voilà. C'est...
Ah, ouais, ouais. À chaque fois, les.
Donc, mais celui-là représente assez bien parce qu'il. Comme c'est une sorte de zapping, on entend un petit peu toutes les. C'est une sorte de résumé un peu.
Ah, ouais, j'adore ça. Eh ben, écoutons. C'était Bribe 4 en avant-première sur Radio Libertaire dans les oreilles libres, 89.4 en région parisienne et partout dans le monde grâce à Internet. C'est Geoffroy Gesser qui est notre invité avec Marco Quarizimin. On écoutait donc Bribe 4, je l'ai dit, avec donc Romain Carono au piano, Yann Joussin à la batterie, Isabelle Serling au chant, et puis donc cette mosaïque, ouais, pour du coup zapping, là c'est assez clair, c'est-à-dire comme on tourne, on passe d'une chaîne à l'autre sur un poste de télé ou autre, et ça se, il y a une esthétique de la rupture, quoi, c'est-à-dire que le contenu, qu'est-ce qui devient là-dedans, c'est presque secondaire, j'ai l'impression, non? C'est plus des valeurs de contraste à chaque fois, la surprise, ou d'être ailleurs, ou l'écart, voilà. La musique elle-même, enfin l'endroit esthétique où on est, ou alors c'est une esthétique.
Oui, même si chaque case, chaque petit passage doit être bien travaillé pour que le son soit là tout de suite.
Ouais,
en fait.
Ouais, c'est ça. Sur net.
Voilà. Et puis, mais en même temps, plus on le joue et plus ça devient musical dans notre oreille.
Ouais,
et c'est naturel, en fait, de passer de l'un à l'autre. Et, enfin, il faut. Parce que.
Que ça retrouve une unité et que ce soit pas totalement désarticulé. Voilà, ouais. Ça peut être un propos aussi. Enfin, je veux dire, il est assez contemporain, même. Hein, Enfin, je sais pas si. Ouais.
Et puis dans l'improvisation, du coup, en fait, c'est ça qui m'a inspiré aussi cette composition, c'est que on est très là-dedans, en fait, dans les changements très soudains, etc., plus que dans un long truc développé petit à petit. Voilà, il y a un côté un peu grande zéro. Ça dit quelque chose.
Ouais, un peu. Ouais, mais...
enfin, ou enfin voilà, de même Julien Després, tu vois, son solo de guitare.
Acapulco,
voilà, un truc un peu comme ça.
Et ouais, tout à fait.
Plutôt musclé dans le son.
Ouais.
Et mais en même temps, ça peut être très.
C'est-à-dire qu'Acapulco, c'est un solo, donc il peut décider tout seul de zapper, justement. Alors que là, la démarche de l'improvisation, c'est justement là où elle est un peu faible. C'est que si on veut des mises en place ou des synchronisations hyper précises, il faut le décider ou avoir un système de gestes ou des choses comme ça que vous avez développé, du coup.
Ouais. Oui, ou de ouais simplement de signal sonore. Enfin, c'est ce qui marche le mieux plutôt que le signe visuel, quoi. Juste tel son va faire que tout le monde va passer au suivant.
Bien sûr. D'accord, c'est super intéressant.
Et après, bon, là, avec avec le montage et tout, là, pour le ce qu'on vient d'écouter,
oui, ça
on a aussi un petit peu évidemment bricolé tout ça.
C'est clair que le cut, c'est du collage aussi. C'est... Très bien. Peut-être pour poursuivre, Geoffroy, Marco, pardon, on peut écouter une des propositions. Tu nous as ramené un disque dans lequel tu ne joues pas.
Oui. C'est un solo de voix. Du coup, heureusement, je sais pas moi.
Donc, très bien. Tu nous rassures tout de suite comme ça. Voilà.
On va donc écouter un solo de voix.
J'ai ramené des choses qui m'ont beaucoup, influencé dans voilà dans un peu toute la musique que j'aime jouer. Ça c'est une composition de Morton Feldman pour voix solo, Three Voices. C'est un long morceau, voilà, encore on sera obligé de d'écouter juste la première partie. Et j'ai formulé récemment une espèce de concept de influence a posteriori, c'est-à-dire que quand on crée la musique, moi j'aime bien ne pas trop penser à des musiques qui ont été déjà faites.
Ouais.
Mais après, on s'est rendu compte finalement que voilà, ça vient de là, les parce échos, qu'on écoute, on écoute ça, du coup, on écoute, on joue ce qu'on écoute. Et voilà, du coup, ça, c'est
souterraine.
Ouais. Du coup, voilà, ça, c'est une des choses que j'aimerais bien.
Alors, ce serait bien qu'on l'écoute. Allez.
Oh.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres.
Et c'était Morton Feldman, Three Voices for Joanne La Barbara, interprétée peut-être par elle-même.
Elle-même,
ouais, c'est ça. Ouais.
Oui, c'est
donc,
la version.
Magnifique musique proposée par Marco Quarizimin, qui est notre invité avec Geoffroy. J'essaie, on va peut-être continuer du coup à parler de vos différents projets. Tu voulais dire un mot sur ce qu'on vient d'entendre un peu davantage ou...
Ah, je laisse les écouteurs.
Ouais, c'est super.
Il réfléchit.
Geoffroy, peut-être on parle de Un Poco Loco, un trio. Là, pour du coup, on aura peut-être pas de mal à dire que c'est du jazz.
Oui, c'est du jazz.
Bon, tu nous vois ça là-dessus. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus que ça? Par exemple, quels sont les musiciens, hein, quel est le répertoire, tout ça. Non, mais on le dit pas assez. Moi, je suis pour qu'on le dise davantage.
Ben, Un Poco Loco, c'est Fidèle Fourneron en trombone, Sébastien Bellia à la contrebasse et moi à la clarinette et au saxophone ténor.
Ouais. Voilà, j'ai eu l'honneur de faire la première partie du premier concert.
Ah oui. Ouais.
C'est un moment historique à la cave Paul Onceau, je me souviens de ça.
Super, ouais.
Et donc, alors, qu'est-ce qui se passe entre vous trois?
Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on reprend des standards plutôt latino. Mm-hmm. Donc, de Dizzy Gillespie, de Bud Powell, de Kenny Dorham.
Mm-hmm. Alors, quand même, voilà, tout de suite, on peut repérer une période, c'est plus années 40-50. Il y a effectivement une période du jazz où il y a eu cette influence-là assez présente de la musique cubaine, des choses un peu comme ça. Et donc, vous reprenez ces morceaux-là?
Voilà, on reprend ces morceaux-là et on les réarrange. Déjà,
avec un trio sans instrument harmonique, ça laisse de la place pour des arrangements variés. Mais alors, est-ce que c'est un projet de répertoire quand même, je veux dire, là, ou est-ce, parce que moi, j'adore cette musique et j'ai grand plaisir à la retrouver jouée par vous, mais quand même, vous la jouez pas comme à l'époque, du coup.
Non, parfois oui.
Parfois oui.
Enfin, je veux dire, il y a des parties où on joue vraiment du jazz. Voilà, et puis d'autres fois où on prend des techniques un peu contemporaine ou des jeux un peu humoristiques sur des éléments de la composition. Enfin, ça peut être des bruits pour le côté percussif, par exemple, ou ça peut être des répétitions, comme un disque rayé, ça peut être des jeux sur les tessitures. Sur les dynamiques aussi. Enfin voilà, on s'amuse bien, quoi. En tout cas, c'est un projet assez humoristique. Et là, on travaille en ce moment sur un nouveau répertoire sur West Side Story.
Ah ouais.
On essaie de reprendre ça en trio.
Trio, donc toujours trombone, saxophone et contrebasse, qui est quand même... pas une formation habituelle, en tout cas.
C'est un peu hérité de Jimmy Giuffre, West Coast, etc. Un petit peu formation
mais
de chambre.
Mais tu joues de la clarinette ou du...
Les deux.
Les deux, en fait.
Ça dépend.
Clarinette et saxophone.
Mais pas en même temps.
Bon. Ok. Et peut-être un petit extrait, là, c'est pour se mettre dans l'oreille.
Peut-être un jour.
Un morceau de Un Poco Loco, un titre de... Bud Powell, enfin en tout cas.
Oui, c'est un morceau un de morceau Bud Powell, ouais. Mais là, on va écouter
Tintin Deo. Thank you.
Un Poco Loco, donc c'est le nom du trio Geoffroy Gesser, Sébastien Bellia, Fidèle Fournéon. Ça fait penser que c'est des musiciens qu'on retrouve dans le Umlaut Big Band avec un répertoire du coup un peu de la même époque. Geoffroy, on te retrouve aussi dans Les Chiens Huilés, et voilà encore des tas de projets prestigieux, mais que on n'a pas forcément le temps d'écouter tous en détail puisque là on arrive pas loin de la fin de l'émission. Marco, il y a encore quelque chose quand même d'important. Moi j'aimerais beaucoup qu'on parle de ton travail en solo. C'est quelque chose qui est souvent délicat à faire. Qu'est-ce que ça représente pour toi?
Alors mon travail en solo, je l'ai commencé il y a 5 ans avant de partir
en France.
Ouais. Et c'était une occasion assez particulière. Je l'ai joué la nuit sous un arbre dans la campagne de Venise. Et ça m'a beaucoup marqué cette première fois. Ouais. J'avais l'idée, c'était une idée technique, juste de coincer l'archer entre les cordes.
Ouais.
Et de jouer un drone de 4 notes au même temps. Du coup, ça faisait un... où on ne reconnaissait pas trop les sons. Mais finalement, oui, parce que ça durait longtemps. Du coup, à petit, voilà, la proposition, c'était ça. À petit s'habituer au son et entendre qu'est-ce qui se passe en bas, qu'est-ce qui se passe en haut. Mmh. Et après, voilà, ça a évolué.
C'est quand même une écoute qui ressemble un peu à celle de Trip, du coup.
Oui.
L'esthétique, par contre, est très différente.
Oui, s'il y a des choses en commun, c'est toujours à voir avec les temps et l'espace. Et du coup, après, ça s'est évolué. J'ai fait complètement autre chose. J'ai joué aussi chez Geoffroy.
Ah, oui.
C'était un moment où c'était beaucoup plus dans les zappings, dans les trucs forts, dans les changements rapides, tout ça. Et là, je suis revenu au début, comme ça arrive souvent. Ouais. Et je fais avec cette fois-ci, la basse est allongée par terre. Et j'ai fait toujours des notes longues, tenues. Et après, j'ai joué avec des objets sur la table harmonique. Et voilà. Et ça m'a...
On retrouve un bain de son. On retrouve du coup un bain
de
son.
Oui, c'est ça l'idée, justement, le bain des sons. Et après, c'est laisser aller dans un... peut-être un changement de la perception, de l'espace et du temps, quoi.
Très bien. Bon, on écoutera un extrait. Malheureusement, évidemment, on ne va pas pouvoir tout écouter, mais un petit bout de solo en fin d'émission. Peut-être qu'on prend le temps de faire quelques annonces, Christophe.
On a quelques annonces. Déjà, vous-même, avez-vous...
Présentez peut-être vos sites, vos actualités, vos futurs concerts, enfin, ce que vous voulez. Est-ce qu'on peut vous entendre bientôt? Alors, il y a ce soir, on l'a dit, à la Criée, peut-être on peut rappeler ça.
Ouais, c'est ce soir, Trip à la Petite Criée, auprès Saint-Gervais.
Auprès Saint-Gervais, rue
Jean-Baptiste Sémenaz.
Oui, rue Jean-Baptiste Sémenaz. Voilà, c'est entrée libre. Je crois, est-ce que tu veux annoncer des concerts
Des concerts en région parisienne.
Site internet ou autre?
Oui, il y a le site internet de Coax, Collectif Coax, où il y a Brib 4.
Une page de Brib 4, ouais.
Sinon, il y a le site de Fidèle Fourneron pour Un Poco Loco.
Ouais.
Et puis, ouais, pour Brib 4 aussi, il y a le blog de l'association Le Ton Vertical, voilà, qui est dans le Doubs, qui supporte Brib 4.
Super. Marco, on peut te retrouver sur Internet aussi ou quoi?
Oui, il y a un site qui est www.marcoquarizumi.com et il y a la page projet où on peut voir les trips, les solos et tout ça.
Très bien.
Et je joue, par ce soir, je joue demain soir au Chat Noir avec le groupe de rock Splinters. Où il y a Guillaume, on retrouve à la batterie. Et il y a Benjamin Dessessier au sax, bariton, New Entry. Voilà. Et après.
Donc, c'est 5 euros et c'est rue Parmentier, le Chat Noir.
Oui. Voilà. Et non, c'est Jean-Pierre Timbo, le
chanteur. Jean-Pierre Timbo, j'allais mettre tout le monde dedans, mais là,
Et sinon, après, j'ai les prochaines dates en région parisienne. C'est le 26 février avec Healing Unit, un quintet de free jazz mené par Paul Varcrenier.
Ouais.
Avec Sylvain Hellary, invité à la flûte, on fait la présentation du disque, du nouveau disque. Et c'est au 107.
Au Sunset. Ouais, très bien. Bah écoute, pareil, on n'a pas eu le temps d'évoquer tous les projets, mais vous reviendrez. On en rajoute peut-être quelques annonces.
Eh ben oui, oui. Alors moi, j'en profite pour dire que on en parlait des sites internet. Nous avons notre propre site internet. Ouais. On dit pas assez souvent lesoreillelibres.free.fr pour écouter les émissions depuis 2013.
Ouais.
Nous avons un mail lesoreillelibres@gmail.com et un Facebook. Il faut taper le Festival des Oreilles Libres. Les annonces, vendredi 29 janvier, ce soir à 19h, projection du film documentaire « On a grévé », réalisé par Denis Gerbrandt. Elles s'appellent Oulimata, Mariam, Géraldine, Fatoumata. Elles sont une trentaine de femmes de chambre. Pendant un mois, elles vont affronter le deuxième groupe hôtelier d'Europe. Elles n'acceptent plus le salaire à la tâche déguisée, les heures données au patron, le mal de dos qui les casse et le mépris dans lequel elles sont tenues. On a grévé. C'est le récit d'une première fois, un jaillissement de chant et de danse qui renoue avec une culture séculaire de résistance. La rencontre entre leur force de vie et une stratégie syndicale pertinente va leur permettre de gagner, pour la première fois, un vrai statut de travailleuse. Ah, bah alors ça fait plaisir. Il faut absolument aller voir ça. Donc c'est entrée libre ce soir à la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. C'est une soirée à l'invitation du groupe Salvador Segui de la Fédération Anarchiste. Mardi 2 février 2016, donc c'est à 20h30, c'est aux Instants Chavirés, bien sûr, John Butcher, Ok Young Lee et Mark Sanders, alors saxophone, violoncelle et percussion. C'est aux Instants Chavirés, tarif 12, 10 et 8 euros, c'est 7 rue Richard Lenoir.
À Montreuil.
Jeudi 4 février à 20h, Benjamin Sens, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps avec le collectif Mire.
Aux Marmites Volantes.
C'est ça, il joue de la charrue, alors je ne sais pas ce que c'est, de la batterie et des effets. Marmite Volante, donc c'est 45 avenue Parmentier.
Voilà, à Montreuil.
On y est. Ah oui, à Montreuil, ce coup-ci. Oui, tu as raison. Voilà. Des annonces, Laurent ?
Non.
Bon, bah, on va se quitter. Merci à vous deux. La semaine prochaine.
Merci Marco, merci Geoffroy d'être venu.
La semaine prochaine, une émission de cinéma animée par Yves-Marie Mahé et Derek Wolfenden à propos du cinéaste de série B italien Joe D'Amato.
Et on se quitte donc en écoutant le solo de Marco, la contrebasse. Et donc, à la prochaine.
Salut les gars, à la prochaine. Salut.